ça sera utile pour la prédication. Peut-être tu veux aussi tes notes de présidence, comme ça tu pourras réviser tes notes de présidence avant. Non, ça va. Ah ben non. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Ça va? Ouais. Vous êtes un peu endormi ce matin? On est un peu en petit comité aujourd'hui, hein. On est vraiment au cœur de l'été, là, ce dimanche et le dimanche suivant, c'est souvent un peu les dimanches les moins fréquentés de l'année, mais on est heureux de pouvoir se retrouver les uns avec les autres, de pouvoir prendre ce temps d'adoration de notre Dieu, ce temps où on se rappelle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, on va refermer ce livre, cette lettre, cette épître de Jacques. On a eu cette série depuis quelques dimanches, et puis maintenant on va étudier aujourd'hui le dernier texte, le dernier paragraphe, la dernière péricope de cette épître de Jacques. Peut-être vous avez déjà entendu cette citation qui dit que l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Vous avez déjà entendu ça? Parfait. C'est Woody Allen qui aurait dit cette fameuse phrase. En fait, il y a un peu un débat. Si vous allez voir un peu sur Internet, vous verrez que certains attribuent cette phrase à d'autres personnes antérieures à Woody Allen. Mais en tout cas, Woody Allen, le réalisateur, aurait dit cette phrase. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. C'est un peu drôle de dire ça, mais en fait, c'est réaliste. C'est tellement long qu'on ne peut pas du tout comprendre ce que ça signifie en pratique de vivre l'éternité. Moi, c'est une question que j'aime beaucoup me poser, j'aime bien réfléchir. Comment ce sera un peu notre vie dans l'éternité? Alors, on a quelques éléments, quelques données bibliques, mais moi, j'aime bien réfléchir juste de manière un petit peu informelle. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence de vivre l'éternité? Est-ce qu'on aura des voitures et des avions dans l'éternité? Ça, c'est une question que je me pose parfois. Et jusqu'ici, vous me direz peut-être votre avis après ce culte, mais je me dis que probablement pas. Je me dis que probablement on se déplacera à pied uniquement. Et ce sera beaucoup mieux parce qu'en fait on aura le temps de le faire. Si je dois aller visiter, Washington, bah je pars et puis de toute façon j'ai l'éternité, donc je peux aller à pied, je peux nager pour traverser l'Atlantique tranquillement avec un petit radeau ou je sais pas quoi et arriver de l'autre côté. Est-ce qu'on aura des emails ou des téléphones portables? Probablement pas. Si on a envie de discuter avec quelqu'un, on peut se dire, allez, tiens, on passe 1000 ans ensemble, comme ça on se connaîtra bien, ce sera pas mal. Hein. On aura le temps d'apprendre toutes les langues et de les oublier toutes. On pourra étudier toute l'œuvre créatrice de Dieu dans les moindres détails. On pourra peut-être être des chercheurs en physique à la pointe, et puis quelques millénaires plus tard, changer de voie pour devenir des psychologues de renom, et puis encore plus tard, devenir des agriculteurs chevronnés, et puis encore un peu plus tard, revenir à l'étude de la physique, parce que finalement, on se dit que ce n'était pas si mal. On pourra connaître chaque personne dans le détail. Le stress sera intrinsèquement impossible. Ce sera plus possible d'être stressé. Personne ne dira « j'ai pas le temps ». C'est bien quelque chose qu'on aura, c'est du temps. Le temps, on l'aura, on ne dira plus « je suis pressé ». Le temps sera une ressource inépuisable. Chaque instant sera suivi d'un autre instant sans aucune fin possible. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes chrétien, si vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur de votre vie, vous êtes éternel, déjà maintenant. La mort, bien sûr, sera une étape. C'est une étape qui peut faire peur. C'est un passage. Mais derrière la mort, on a cette assurance que la vie continuera dans la gloire pour l'éternité. Seulement, il faut le reconnaître. Nous vivons dans une époque, dans une période qui est encore éphémère. Nous attendons encore maintenant le retour du Seigneur. Nous attendons le renouvellement de toutes choses. Quand on regarde le monde autour de nous, on reconnaît qu'il y a quelque chose d'incomplet, quelque chose d'insatisfaisant, quelque chose de frustrant dans le monde autour de nous. On attend l'accomplissement ultime, on attend les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui nous est présentée à la fin du livre de l'Apocalypse. On attend de voir Dieu au quotidien et de vivre bien heureux sous sa bonne autorité. Jacques termine sa lettre et on va lire ce dernier passage de la lettre de Jacques. Il termine en réfléchissant à cette question. Comment dois-je vivre en attendant le retour du Seigneur ? En gros, le thème de cette prédication, c'est comment vivre ma vie chrétienne avec les yeux fixés sur Dieu et avec cette perspective du jugement et de l'éternité. Alors j'ai donné ce titre à cette prédication, « Vie de bonne relation avec tes frères et sœurs ». Mais ce titre, c'est le titre que j'ai affiché sur ce petit papier, là, peut-être vous avez vu ça. Et ce petit papier, je l'avais fait il y a longtemps, quand j'avais décidé de toute la série qu'on allait faire dans l'épître de Jacques. Mais je dois vous avouer, en étant honnête, qu'en étudiant plus en profondeur ce passage cette semaine, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû choisir un autre titre pour ce texte. Jacques, c'est vrai, parle beaucoup des relations, et on va le voir, il parle beaucoup des relations dans ce passage. Mais il réfléchit aux relations dans cette perspective du retour du Seigneur, dans cette perspective de l'éternité. Donc le titre que j'avais mis, ce titre-là, n'est pas à côté de la plaque, mais je crois qu'il ne vise pas tout à fait juste. Il manque, je crois, le moteur ou l'élément central dans ce texte. Alors on pourrait dire, par exemple, que ce que Jacques nous enseigne ici, c'est « Vis de bonnes relations avec tes frères et sœurs dans la perspective du retour du Seigneur. » Mais ça fait un peu long comme titre. Hein. Donc on pourrait juste dire peut-être « Vis dans la perspective du retour du Seigneur » ou quelque chose comme ça. On lit maintenant ce passage. C'est donc il va être affiché à l'écran, donc si vous voulez, vous pouvez suivre à l'écran. Si vous avez une Bible et que vous préférez le lire dans votre Bible, c'est dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7, et jusqu'à la fin du chapitre, donc verset 20. Je lis Jacques 5, à partir du verset 7. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons « Heureux ceux qui persévèrent ». Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre, ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort, et couvrira une foule de péchés. jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. On va voir comment Jacques nous invite à vivre notre vie chrétienne dans cette perspective de l'éternité. Jacques commence par un principe général, on va le voir, il nous dit « sois patient ». Et puis ensuite il va décliner ce principe général dans sept aspects de la vie chrétienne. Et on va passer en revue, on va d'abord voir ce principe général et ensuite on va passer en revue ces sept aspects de la vie chrétienne. Et je vais faire défiler le texte de nouveau pour que vous puissiez voir que mes paroles collent avec ce que Jacques dit. Donc premièrement, un conseil général. Soyez patient. Et Jacques développe hein, en donnant cette directive additionnelle ici. Soyez patient, affermissez votre cœur. Voilà l'attitude générale que nous devrions avoir en attendant le retour du Seigneur. Donc vous avez vu, c'est jusqu'au retour du Seigneur. Et puis ici à la fin, il dit « car le retour du Seigneur est proche ». C'est vraiment dans cette perspective du retour du Seigneur, nous devons être patient et affermir nos cœurs. En tant que chrétiens, nous devrions être marqués par l'attente. Pas une attente pressée, comme quand des fois on est à l'arrêt de bus et on regarde sa montre et on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Le bus n'arrive pas ». On devrait au contraire vivre une attente apaisée. On devrait se réjouir du retour du Seigneur. Nos pensées devrait être orienté dans cette direction. Il y a une opposition ici avec ce qu'on a vu la semaine dernière. André nous avait enseigné ces hommes d'affaires, vous vous souvenez, ces escrocs qui veulent faire du profit à tout prix. Le chrétien, lui, doit constamment avoir les pensées orientées vers le retour du Seigneur. Ça ne signifie pas que la richesse soit mal en soi. La richesse n'est pas en elle-même quelque chose de mal, mais le rapport que nous entretenons avec les richesses peut être un mal et peut être même un mal profond. Vivre patiemment. Il y a cette image qui est tellement évocatrice, je trouve, un agriculteur, comme un agriculteur qui voit grandir sa récolte. Il n'est pas pressé. Il attend que les jours passent. Quelque chose qu'on a du mal à vivre, je crois. Hein. On est dans une culture de l'instantané. On veut les choses tout de suite. Et personnellement, c'est quelque chose, en tout cas, que j'ai du mal à vivre. Moi, je suis souvent pressé. J'ai souvent des pensées qui fusent dans tous les sens dans ma tête. J'ai beaucoup à apprendre de Jacques. Et je crois qu'il faut qu'on arrive vraiment à vivre dans cette perspective du retour de Jésus, l'éternité. Dès maintenant, on peut vivre dans l'éternité, dès maintenant. Et ce que Jacques nous dit, c'est, en attendant, ben, affermissons-nous. Ça signifie que nos pensées devraient être orientées vers Jésus, vers son retour, mais aussi vers une croissance en lui, un affermissement. On doit grandir en lui. Et j'aimerais vous faire part d'une expérience qu'on mène un petit peu en famille, enfin moi personnellement, mais aussi en famille depuis quelques mois, peut-être un ou deux ans, on essaie d'apprendre à apprécier pleinement nos temps du culte du dimanche matin. On essaie de se lever tôt pour ne pas être pressé, on prend notre petit déjeuner en famille, on se prépare et on essaie de venir ici dans notre salle de culte bien en avance pour avoir le temps de discuter avec les uns et les autres. Et puis ensuite, le culte commence. J'essaie de vivre ce moment dans la paix et dans la joie, de prendre le temps de discuter après le culte avec les uns et avec les autres. Voilà un peu comment on essaie de cultiver cette patience et d'affermir notre cœur en Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire « regardez-moi, je suis un exemple », pas du tout. Je ne dis pas que vous devez faire la même chose, pas du tout. Ce que je dis, c'est que je vous partage ça parce que ça me fait du bien de prendre le temps, d'être là, de me laisser affermir par les discussions que je vais avoir avant et après le culte avec les uns et les autres, par les chants, par la prédication. Et je vous dis franchement, on n'y arrive pas toujours. Parfois, c'est le rush et on arrive ici, on est énervé parce que nos filles nous ont poussé à bout, ou je sais pas, des fois on s'est fâché, ou que sais-je. On n'est pas toujours dans notre assiette. Mais voilà, on essaye de prendre le temps, de patienter, d'affermir nos cœurs dans l'attente du retour du Seigneur. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait beaucoup de bien. Voilà, un petit mot de témoignage personnel. Le Seigneur revient. Donc vivons, chacun d'entre nous, avec cette attente, cette patience, en faisant de notre affermissement une priorité. Ça, c'est le principe général. Et puis, par la suite, Jacques va décliner ce principe général dans 7 aspects de la vie quotidienne. Donc, je vous rassure, on ne va pas passer beaucoup de temps sur chaque aspect, mais on va passer à travers de ces 7 aspects. Premier aspect, les plaintes. Jacques nous dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Pourquoi ? Pour ne pas être jugés. Et Jacques ajoute quelque chose, hein, il nous dit, voici le juge se tient à la porte. Vous voyez hein, comment Jacques relie ce sujet des plaintes au sujet du jugement. Il fait un lien évident entre les relations d'aujourd'hui et le jugement à venir. En fait, Jacques ici nous parle des émotions liées aux relations. Il nous renvoie à Job. D'abord, il nous renvoie au prophète, et puis plus précisément, il nous renvoie à Job, un homme qui a vécu à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, un homme qui a souffert terriblement. Vous pouvez lire son histoire, hein, c'est un des textes qui se trouve dans l'Ancien Testament. Mais c'est un homme qui a continué à compter sur Dieu. On peut se plaindre. On a tous des milliers de raisons de se plaindre. On peut se plaindre des autres en particulier. On peut se plaindre de sa situation. Mais Jacques nous dit, regardez au jugement. On doit regarder à Dieu, regarder à l'éternité. Il faut se remettre dans le contexte ici. Jacques, il nous dit, hein, au tout début de sa lettre, il nous dit qu'il écrit aux 12 tribus dans la dispersion. Probablement que Jacques, en fait, écrit à son église dispersée à cause de la persécution qui avait commencé à Jérusalem. Jacques est en train de leur dire, dans cette persécution, de ne pas se plaindre des autres à cause du jugement et à cause de l'éternité. Comment faire pour ne pas se plaindre les uns des autres? Et je crois qu'il y a deux manières, il y a deux notions qui, dans cette pensée du jugement, cette pensée de l'éternité, nous aident à ne pas nous plaindre les uns des autres. La première manière, c'est qu'on se souvient du jugement. Les premiers lecteurs de cette lettre, ils étaient persécutés, comme j'ai dit, probablement, et ils pouvaient aspirer à cette justice qui finirait par éclater. Ça leur faisait du bien de penser que ce temps d'injustice dont ils étaient les victimes ne durerait pas toujours, mais qu'un jugement juste, un jugement véritable, se tiendrait à la fin des temps. Ça, c'est la première chose qui pouvait leur faire du bien dans cette pensée de l'éternité. Puis la deuxième manière, c'est que justement, ils se souviennent de l'éternité. De l'éternité qui, justement, n'a pas de fin. Je crois que les maux que nous endurons aujourd'hui et pour lesquels nous nous plaignons peuvent être terribles. C'est vrai. Il y a des fois des situations relationnelles hyper difficiles. Mais si nous les comprenons dans la perspective de l'éternité, je crois que nos maux pâlissent. Ils deviennent tout à coup beaucoup moins importants quand on les considère dans la perspective de l'éternité. Ils ne dureront pas toujours. En fait, la durée de notre vie, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Je crois que nos maux, aussi durs soient-ils, pâlissent quand on les considère dans la perspective de l'éternité. Vous avez vu la fin de Job ? Il est question ici de la fin de Job. Si vous lisez sa vie, à la fin de sa vie, il a reçu du Seigneur encore plus que ce qu'il n'avait perdu pendant les catastrophes qu'il avait subies. C'est la même chose pour le croyant. On peut perdre beaucoup dans cette vie, mais on recevra encore beaucoup plus dans l'éternité Et ça, c'est un puissant encouragement lorsque nous vivons des relations émotionnellement difficiles. Prochain domaine, le deuxième, les serments. En fait, ici, là, Jacques avait traité des émotions dans les relations. Maintenant, Jacques traite des responsabilités dans les relations. Ne jurez pas, dit Jacques. Et de nouveau, il relie le serment au jugement et à l'éternité. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que dans notre culture, on n'est plus aussi familier avec cette notion du jugement que ne l'étaient les lecteurs du 1er siècle. Apparemment, le fait de faire des serments était quelque chose de très sérieux. Vous pouvez lire dans les premiers livres de la Bible les lois relatives aux serments. Si ça vous intéresse, ça se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 30. Les serments étaient liés vraiment à la responsabilité de la personne, à sa réputation, à ses devoirs. Manifestement, on avait pris l'habitude au 1er siècle, à l'époque où Jacques écrit cette lettre, d'employer des formules de plus en plus grandioses pour passer un serment. On pouvait passer un serment au nom du ciel ou au nom de la terre ou que sais-je. C'était une habitude assez courante. Et on peut lire un texte parallèle à ce passage-là dans Matthieu, chapitre 5, où c'est Jésus lui-même qui condamne ce genre de pratique. Jésus et Jacques arrivent un peu au même constat. Ils disent, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quel était le problème? On promettait par le ciel, par la terre ou par toute autre chose, mais Jésus et ici Jacques nous disent de dire oui, oui, ou alors non, non. Pourquoi? Afin de ne pas tomber en jugement. Et Jésus va très loin. Il dit que tout ce qu'on ajoute à cela vient du malin. On ne doit pas ajouter quelque chose à un serment. On s'engage soi-même. On n'a pas le droit d'engager autre chose. On doit être intègre. On ne doit n'avoir qu'une parole. On doit être fiable. Et en fait, le fait de mal prendre des engagements, ça peut avoir un impact au jour du jugement. C'est ce que Jacques nous dit. Nos responsabilités, les engagements relationnels que nous prenons ont un impact le jour du jugement. Ça va vite. On tombe vite dans des engagements qu'on prend et qui sont ingérables, qui peuvent nous éloigner de ce que Dieu veut pour nos vies. Alors je vous avoue, très franchement, que je trouve ce passage pas facile à comprendre. J'ai l'impression que c'est assez loin de notre culture, donc j'ai encore du mal à savoir exactement qu'est-ce que Jésus dans Matthieu 5 et qu'est-ce que Jacques dans Jacques 5 veulent nous dire. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'espère pouvoir approfondir ça dans l'avenir. Mais ce qui me paraît clair, c'est que Jacques nous dit ici que nos paroles ont un poids et que nous devons prendre ce poids très au sérieux parce que nos paroles peuvent avoir des conséquences dans l'éternité. Troisième aspect, la souffrance. Une simple phrase. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Jacques oriente celui qui souffre, le souffrant, vers Dieu. En une petite phrase, il place le souffrant dans la perspective du jugement et de l'éternité. Alors, je vous l'accorde. Avec juste cette phrase, hein, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, on ne peut pas tout de suite dire qu'il place le souffrant dans la perspective de l'éternité, mais quand on regarde à ce qui précède, on voit que c'est vraiment l'intention de Jacques tout au long de nous placer dans la perspective du jugement et donc de l'éternité qui suit le jugement. Qu'il prie. Ces dernières décennies, des ministères de relations d'aide sont développés partout dans le monde. On a inventé des méthodes pour accompagner, pour aider ceux qui souffrent. En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose qui a existé de tout temps dans l'histoire de l'Église. On a réfléchi à l'accompagnement des personnes en souffrance. Et ça a pu prendre différentes formes dans l'histoire, mais il me semble que ça devient de plus en plus professionnel depuis quelques décennies. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais il faut veiller dans l'accompagnement des personnes qui souffrent à ne pas passer à côté de l'essentiel. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. C'est une phrase. C'est tellement simple. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il porte ses regards à Dieu. Ça paraît presque trop simple. On peut se dire, ouais, mais bon, t'es gentil avec ton conseil, qu'il prie, Jacques. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Pourtant, c'est la clé. C'est la clé de la souffrance. Qu'il prie. Regardez à Dieu. Regardez au jugement. Regardez à l'éternité. Lorsque nous passons par la souffrance, c'est la clé qui va nous permettre de surmonter cela. Et Dieu secourt ses enfants dans la souffrance. Il le fait de deux manières. Parfois, il le fait en soulageant la souffrance. D'autres fois, il le fait en nous équipant pour la surmonter. Dieu ne soulage pas toujours. Je connais quelques personnes qui souffrent terriblement et qui ont souffert pendant longtemps, mais qu'ils prient. Parfois Dieu délivre, parfois il nous équipe pour surmonter la souffrance. Le regard porté vers Dieu est la clé de la souffrance. Alors là, je ne sais plus, on en est quoi ? Au quatrième, hein, je pense, la joie. C'est toujours sur ce même slide. Hein. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. La joie, dans la structure de ce texte, c'est un petit peu, justement, l'opposé de ce qu'on vient de voir, de la souffrance. Mais là aussi, Jacques nous dit, bah, regardez à Dieu. La forme est un peu différente. Il ne dit pas de prier, mais plutôt de chanter des chants de reconnaissance à Dieu. Il y a un côté un peu bizarre, je trouve, dans la vie chrétienne. On pourrait s'attendre justement à vouloir remercier Dieu quand tout va bien. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. On en appelle à Dieu quand nous n'allons pas bien. On a de la facilité, en fait, à nous en remettre à Dieu, à crier à Dieu quand on va mal. Par contre, on a beaucoup de facilité à l'oublier quand tout va bien. Jacques nous rappelle ici qu'on ne doit pas avoir une telle attitude. On doit regarder à Dieu dans la souffrance et dans la joie, chanter des cantiques. Cinquième, la maladie. Jacques cible un domaine particulier de la souffrance. C'est la maladie ou la faiblesse. Alors là, il y a une question un peu de traduction. Qu'est-ce qu'il doit faire, le malade ? Il doit appeler les anciens, donc les responsables de l'Église, à son chevet. Les anciens vont prier pour lui en appliquant de l'huile. Et le texte nous dit que la foi, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alors je dois vous l'avouer, hein, ça c'est un passage qui a suscité beaucoup de commentaires dans l'histoire. Si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de l'interprétation de ce texte, vous verrez que c'est juste énorme ce qui a pu être écrit par les commentateurs. Alors, je vais pas mentionner les différentes écoles d'interprétation de ce texte. Je vais m'en tenir à ma compréhension. Voilà, je vais essayer de vous expliquer voilà comment moi, je comprends ce passage. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Ils vont prier pour lui en loignant d'huile et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Je vais faire quatre remarques pour essayer d'expliquer de manière réaliste, je crois, ce passage. Première remarque, c'est que ce qui est au cœur de l'action, c'est la prière. Je ne sais pas si vous avez vu, mais même d'un point de vue grammatical, l'onction d'huile est au passif. C'est en loignant d'huile. Je ne sais pas si certains ont quelques souvenirs de la grammaire. C'est la même chose en grec, hein, mais dans le français, c'est bien retranscrit. C'est en loignant d'huile. C'est-à-dire que le verbe actif, le verbe qui est sur le devant, c'est qu'il prie. En plus, juste après, c'est bien précisé, hein, que c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. est le Seigneur qui le relèvera. Autrement dit, l'onction d'huile, peut-être que parfois on a pu voir de manière excessive cette onction d'huile, l'onction d'huile est comme mise au deuxième rang. C'est ce qui accompagne la prière. Ce n'est pas la prière qui accompagne l'onction d'huile, c'est bel et bien l'onction d'huile qui accompagne la prière. C'est comme une manière matérielle de dire, nous prions, et pour comme donner une réalité matérielle à cette prière, on oignait d'huile. Deuxième remarque par rapport à ce passage, c'est que ce sont les anciens qui sont appelés. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un expert ou un guérisseur ou un pasteur ou un apôtre qui est appelé. Ce sont les anciens de l'Église. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est l'Église représentée par ses anciens qui se tient au chevet du malade et qui prie pour lui. En fait, ce que Jacques est en train de nous dire ici, c'est qu'il s'agit d'un acte d'Église et non pas d'un acte de spécialiste. C'est en fait une preuve de compassion de l'Église envers l'un de ses membres souffrants. Voilà comment l'Église accompagne un de ses membres malade ou souffrant. Troisième remarque que je fais sur ce passage, Jacques dit que la prière de la foi sauvera le malade. Et vous avez vu, il y a comme un effet de miroir, hein. C'est comme deux phrases qui se répondent l'une à l'autre. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Comment comprendre ça? Est-ce que les malades, en priant, reçoivent la guérison? Est-ce que les malades qui ne recevraient pas la guérison manqueraient de foi? J'ai assisté un jour à une scène vraiment triste comme ça. Quelqu'un qui était en chaise roulante et une personne priait pour elle et puis il se passait rien. Et puis la personne qui priait pour elle disait mais ça c'est parce que tu manques de foi. C'est terrible. Quel fardeau sur cette personne qui prie. Mais est-ce que c'est la foi qui guérit? Bien sûr que non. Regardez dans cet effet miroir dans ce verset. La prière de la foi sauvera le malade et qui? Le Seigneur le relèvera. Donc en fait, pourquoi est-ce que la prière de la foi sauvera le malade? C'est parce que c'est le Seigneur qui relève. Pourquoi est-ce que la prière est puissante? Parce que le Seigneur est puissant. En fait, la prière ne sauve personne, la prière ne guérit personne. Mais le Seigneur sauve et guérit. Le Seigneur relève. Dieu peut choisir de guérir. Il peut choisir de relever dans cette vie ou dans l'éternité. C'est impossible et c'est même dangereux de prétendre que la prière guérit d'une manière absolue ou d'une manière systématique. C'est faux. En fait, ce serait même donner un caractère magique à la prière. C'est comme si on forçait Dieu par la prière à guérir des personnes. Mais derrière la prière, c'est Dieu en fait qui agit. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on oint d'huile. C'est parce qu'on dit, en fait, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous attendons ton action dans cette situation précise. Il faut porter nos regards vers Dieu. Il faut porter nos regards sur l'éternité pour comprendre que la guérison ne peut venir que de Dieu. Quatrième remarque que j'aimerais faire sur ce passage. Il y a un petit ajout à la fin. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Ici, Jacques, en fait, amorce le prochain point. Il nous dit ce qu'il va dire par la suite. Mais en fait, ce qu'il nous dit là, c'est que cette prière de guérison, c'est aussi l'occasion d'une introspection en vue de la confession. Confesser, ça veut dire, reconnaître ses péchés. Jacques ne dit pas que la maladie est due à un péché nécessairement. Mais il dit que ça peut être le cas. Et il dit en tout cas que c'est le moment de regarder à sa vie. C'est le moment d'être réaliste. C'est le moment d'être transparent. Et là, ça nous montre qu'en fait, il faut une relation de confiance entre les anciens et la personne malade. Il faut une relation suffisamment sécurisée pour que cet échange puisse avoir lieu. Ce ne sera pas nécessairement le cas. Mais il faut que la personne malade ait cette liberté de dire les choses qu'elle souhaite dire pour qu'on puisse prier pour elle. Et le pardon lui sera accordé. On parlera un petit peu du pardon encore dans le prochain point. Donc, il s'agit d'un passage ici qui peut paraître compliqué. Mais je crois qu'en fait, ce n'est pas si complexe que ça. Ce que Jacques nous dit ici, c'est simplement que l'Église doit prier pour ses malades. Que l'Église doit prier en croyant que Dieu peut guérir. Avec cette conviction que Dieu a la puissance, il a la possibilité de guérir. L'Église et le malade doivent regarder à Dieu, regarder à l'éternité, regarder au jugement. Le sixième aspect, c'est le péché. On a deux autres domaines qui vont venir ici, c'est la question du péché et de l'égarement. C'est deux domaines un peu connexes, mais avec des intensités différentes. Par rapport au péché, Jacques commande de s'avouer les fautes les uns aux autres et de prier ensemble. L'Église devrait être une famille solidaire dans laquelle on lutte ensemble contre les péchés des uns et des autres. Et Jacques donne l'exemple d'Élie. Élie, un homme comme nous, de la même nature que nous, qui a prié, et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et puis ensuite, il a prié de nouveau, et la pluie est revenue. Pourquoi Élie a pu faire ça? Est-ce qu'il avait une puissance particulière? Bien sûr que non. En fait, c'est derrière la prière d'Élie, c'est Dieu qui a agi. Comment est-ce qu'on obtient la guérison? Comment est-ce qu'on obtient le pardon? Est-ce qu'on obtient le pardon grâce à la prière elle-même? Assurément pas. Personne n'a le pouvoir, par les mots qu'il prononce dans cette prière, de pardonner le péché. Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir le pardon des péchés. Ce moyen, c'est Dieu lui-même qui meurt sur une croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même Dieu, qui meurt à notre place comme une victime, comme un sacrifice, pour que nous recevions ce pardon. C'est le seul moyen. C'est en nous confiant en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection, que la justice de Christ nous est donnée et que notre péché est pardonné. Christ payant pour notre péché sur cette croix. Donc la prière n'a pas une puissance en elle-même, mais au nom de Jésus, par Jésus-Christ, par ce qu'il a fait sur cette croix il y a 2000 ans, nous obtenons le pardon de nos péchés. Dernier point, l'égarement. Le fait de ne pas être dans la vérité, ou le fait peut-être d'avoir renié la foi. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire ici sur la question, est-ce qu'on peut perdre le salut en tant que chrétien? Et on peut en discuter en aparté, s'il y en a qui veulent discuter de cette question, je serais content de discuter avec vous. Mais pour le dire d'une manière très brève maintenant, je ne crois pas qu'on puisse perdre son salut. Mais je crois qu'on peut s'égarer. On peut s'égarer de deux manières. Soit on s'égare dans le sens qu'en fait on n'a jamais compris la vérité, et en fait on est séparé de Dieu. Ou alors, on peut s'égarer momentanément en tant que chrétien de la vérité pour diverses raisons. Là aussi, comme pour la question du péché, là aussi ça nécessite une autre personne qui ramène l'égaré dans la vérité. Moi je pense qu'ici il s'agit d'un égaré, donc quelqu'un qui n'a jamais compris la vérité, parce qu'il faut que la personne prêche la vérité pour sauver l'âme de cette personne et pour couvrir une multitude de péchés. En fait, lorsque quelqu'un entend la vérité, qu'il comprend le message de l'Évangile, il reçoit ce pardon pour les péchés. Donc, une multitude de péchés sont couverts. Voilà une belle promesse qui nous est faite ici. Prenons un tout petit peu de recul maintenant. On a vu pas mal de choses. Je suis désolé, j'ai fait déjà pas mal de temps sur le texte. Mais laissez-moi encore juste quelques minutes. Pour résumer, je crois qu'il y a deux grandes idées dans ce passage. Premièrement, il y a l'idée de vivre de bonnes relations les uns avec les autres. Et deuxièmement, il y a l'idée de regarder à Dieu, au jugement et à l'éternité. Et je vous fais juste un tout petit rembobinage du texte pour que vous compreniez un petit peu en quoi ces deux idées sont présentes dans chaque passage. Premièrement, Jacques nous dit d'être patient en attendant le jour, le retour du Seigneur. Ça, c'est l'idée de base. Et puis ensuite, il décline ça dans différents domaines par rapport aux plaintes. Donc, les émotions que nous vivons dans nos relations. Jacques nous parle des relations dans ce passage. Je reviens juste. Il nous parle des relations. Et il lie ces relations au jugement. Ensuite, Jacques nous parle des responsabilités dans les relations en parlant des serments. Il nous parle des relations et il les lie au jugement. Ensuite, Jacques nous parle de la souffrance. Il nous dit de prier, de regarder à Dieu, à l'éternité, au jugement. Il nous parle ensuite de la joie. Il nous dit de chanter des cantiques, donc de regarder à Dieu, à l'éternité, au jugement. Ensuite, il nous parle de la maladie. Il nous dit d'appeler les anciens qui vont prier en vue de la guérison. Donc des relations, et c'est placé dans la perspective de Dieu, de l'éternité et du jugement. Par rapport au péché, on doit se confesser les uns aux autres pour recevoir le pardon. Donc on doit regarder à Dieu et vivre des relations les uns avec les autres. Par rapport à l'égarement, ça nécessite une personne qui ramène l'égaré dans la vérité. Ça aura un impact éternel. La personne sera sauvée de la mort. Donc on a une relation de nouveau entre le fait de vivre des relations et le fait de regarder à Dieu, au jugement et à l'éternité. Bref, Jacques nous dit d'avoir de bonnes relations et de regarder à Dieu, au jugement, à l'éternité. Voilà les deux grandes idées de ce passage. Quelques mots d'application pour terminer. Je crois que ce passage, en fait, c'est juste une application en lui-même. Si tu es malade, appelle les anciens. Ils vont prier pour toi. Si tu es dans la joie, chante. Si tu es dans la souffrance, prie. Si tu as fait un serment, sois intègre, etc., etc., etc. C'est juste des applications. Donc on a juste à prendre ce passage et à l'appliquer dans tous les domaines de nos vies. Mais je crois qu'on a quand même besoin d'un petit challenge. On a besoin de se dire, cette semaine, je vais vivre ce texte d'une manière particulière. Vous êtes prêts pour un petit challenge ? Je vous le propose. Voilà un exercice, un challenge pour cette semaine. Je vous propose de faire une visite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. On parle souvent des visites, surtout des visites du pasteur. On attend que le pasteur visite les personnes. Ou alors peut-être les anciens qui visitent les personnes. Mais je crois qu'en réalité, se visiter, c'est le job de chacun. On doit chacun se voir les uns les autres, se visiter les uns les autres, discuter, lire la Bible, prier les uns avec les autres. Ce n'est pas le job d'un groupe particulier de l'Église, c'est le job de tous. Alors ce que je vous propose cette semaine, c'est d'aller voir une personne de l'Église. Peut-être une personne que vous ne connaissez pas trop, pourquoi pas. Ça peut paraître un petit peu surprenant de dire « je vais voir quelqu'un que je ne connais pas trop ». Mais je crois que c'est important. Puis après, vous la connaîtrez, donc vous ne pouvez plus dire que vous ne la connaîtrez pas trop, n'est-ce pas ? Si vous le faites jamais, vous ne vous connaîtrez jamais. Nous ne nous connaîtrons jamais. Donc, allons voir un frère ou une sœur et faisons trois choses. Je sais qu'il y en a qui sont plus visuels, moi je suis plutôt auditif, mais certains ont plus de facilité avec ce qui est visuel. Donc je vous ai préparé trois logos. Comme ça, vous allez imprimer dans votre rétine ces trois logos et ça va vous faire rappeler, quand vous vous verrez avec cette personne, ce que vous devez faire ensemble. Premièrement, lisez ce texte qu'on vient de voir avec cette personne. C'est le dernier chapitre de Jacques. Vous n'avez pas besoin de retenir la référence exacte. C'est le dernier chapitre de Jacques, en fait c'est à partir du verset 7. Mais si vous commencez à partir du verset 1, ce n'est pas grave, il n'y a aucun souci, vous pouvez lire tout le chapitre sans problème. Voyez-vous et commencez par lire ce passage. Deuxième chose, bon, c'est peut-être pas très visible, mais c'est une oreille qui écoute. Donc, demandez à la personne si, à la lecture de ce passage, elle voit un domaine dans sa vie où elle a du mal à vivre de bonnes relations, ou alors où elle a du mal à porter ses regards vers Dieu, vers le jugement, vers l'éternité. Donc ça, c'est l'écoute. Et puis, dernière chose, troisième étape, la prière. Ça, c'est demain, vous voyez, avec ça, comme ça. Comme ça, vous avez l'image bien en tête. Demandez à la personne, comment est-ce que je peux prier pour toi ? Puis une fois que vous aurez fait ces trois étapes, ben, faites-les vous-même avec cette personne. Parce que on n'est pas là pour vivre une relation unilatérale où on demande à une personne qu'elle nous livre des choses, mais nous, on ne lui dit rien. Au contraire, vous aussi, faites-le. Dites-lui quels sont vos lieux de lutte par rapport à ce texte de Jacques 5. Puis ensuite, dites-lui comment elle peut prier pour vous. Et puis après ça, prenez le temps de prier l'un avec l'autre. Prenez le temps de vous encourager mutuellement. En fait, je vais dire plutôt prenons le temps de vivre cela. Ça vous dit de faire cet exercice cette semaine, ce challenge ? Je sais, c'est pas facile, hein. Je ne suis pas en train de minimiser le fait qu'on a un peu le trac, on ne sait pas trop qui je vais aller voir et comment je vais faire. Si vous ne savez pas trop, venez me voir, je peux vous mettre en contact les uns avec les autres. Si vous avez besoin d'un numéro de téléphone, d'une adresse mail pour contacter quelqu'un, venez me voir. J'ai une bonne partie des numéros de téléphone et des adresses mail des uns et des autres. Mais faisons-le. On a vu comment les relations sont importantes dans le traitement du péché, dans le soutien, dans la souffrance. Et on a vu comment on doit s'encourager les uns les autres à porter nos regards vers Dieu, vers le jugement, vers l'éternité, dans notre quotidien dès aujourd'hui. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce passage qui nous touche dans notre quotidien de Jacques 5. Merci parce qu'on reconnaît qu'on a du mal parce qu'on vit dans une vie confortable et on préfère regarder à notre quotidien que de porter nos regards vers l'éternité. Seigneur, je te prie de te transformer mon cœur, de transformer nos cœurs et de transformer notre Église pour qu'on ait ce réflexe, qu'on vive l'éternité dès à présent, qu'on puisse porter nos regards sur toi en toutes circonstances, dans les plaintes, dans les serments, dans la souffrance, dans la joie, dans la maladie, dans le péché, dans l'égarement. Aide-nous à être patients et à nous attendre à ton retour en affermissant nos cœurs en Jésus-Christ. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Je propose de rester encore quelques instants dans le silence pour bien méditer ensemble ce qu'on vient d'entendre.